Ici, le séminaire donc de ce mois-ci. Tout à l'heure, à 11h, ce sera Maxime Dahan, du laboratoire Katia Brossel, va nous parler de spectroscopie par corrélation d'intensité de nanocristaux semi-conducteurs. Mardi prochain, ce sera Roland Combesco, du laboratoire de physique statistique de l'ENS, qui nous parlera de superfluidité Bardeen-Cooper-Schiffer, du lithium 6 ultra, gazeux ultra-froid. Enfin, le 24 octobre, à 11h, ce sera François Virabin, du laboratoire Katia Brossel, qui fera une revue sur l'atome d'hydrogène, de l'électrodynamique quantique à la métrologie. Donc, le 31 octobre, il y aura ni cours ni séminaire. Je pense être en mesure, la semaine prochaine, de vous annoncer les premiers séminaires de novembre. Et j'ai rappelé aussi ici le site internet où vous pouvez avoir les notes de cours le jour même, après chaque cours, sur le web. Bien, alors aujourd'hui, après l'introduction générale de la semaine dernière, je commence proprement dit le cours de cette année par un chapitre général sur les facteurs de structure. Et polarisabilité d'un condensat. Je vais aujourd'hui insister sur les propriétés générales, définir ces grandeurs physiques, donner leur signification physique, donner les relations qui existent entre ces différentes grandeurs, et la semaine prochaine, je les expliciterai pour un condensat homogène, en établissant un certain nombre de propriétés plus précises, et la semaine suivante, je passerai au cas d'un condensat inhomogène, c'est-à-dire le cas d'un condensat piégé dans un piège harmonique. Alors, si vous voulez, je vais commencer par revenir au problème que j'avais mentionné la semaine dernière, à savoir la diffusion d'une particule sonde par le condensat, soit un atome neutre, soit un photon. Et je vais calculer d'abord la probabilité de transition par unité de temps. Par seconde. Alors, je remets sur le projecteur de gauche l'expression de l'hamiltonienne interaction d'une particule sonde de masse m de position grand R interagissant avec les atomes du condensat numérotés de I de 1 à n de position RI. Et le potentiel, U, ne dépend que de la distance, grand R moins petit R, entre la particule sonde, l'atome sonde, et l'atome I du condensat. Donc l'hamiltonienne, c'est une somme de termes pour chaque atome du condensat. En faisant apparaître ici la fonction delta de R moins RI, sommée sur I, on voit apparaître ici la densité spatiale à un corps, et l'hamiltonienne d'interaction fait donc apparaître la densité spatiale à un corps. Alors, l'amplitude de diffusion, je repars donc de cet hamiltonien d'interaction, et l'amplitude de diffusion du système d'un état initial. Je considère donc la particule sonde passe d'un état initial d'impulsion h bar ki, d'énergie epsilon i, à un état final d'impulsion h bar kf et d'énergie epsilon f. Quant au système des n bosons, il passe d'un état initial psi d'énergie i, à un état final psi f d'énergie f. Et l'amplitude de diffusion, bien sûr, fait intervenir l'élément de matrice de H interaction entre KI psi et KF psi F. Alors, il est commode à ce stade d'introduire la transformée de Fourier de U. Je poserai donc U indice K. En fait, c'est plutôt la série de Fourier parce que je prends des ondes planes discrétisées dans une boîte de côté L. Donc, UK, c'est une somme de D3R et puissance IKR U de R. Et je vous rappelle que ρ1 de R, pardon, la densité spatiale, est également une série de Fourier, 1 sur L3, somme sur Q de l'épuissance IQR, ρ indice Q. Alors, je repars de la méthode d'interaction, je remplace ρ par son expression, je réécris épuissance IQR sous la forme épuissance moins I, Q grand R, épuissance... je pense qu'il y a donc... c'est ça, et puissance moins IQR moins grand R, et je fais apparaître cette quantité, somme sur Q de 1 sur L3, UQ, et puissance moins IQ scalaire grand R, ρQ. Et je vois apparaître ici, donc, la transformée Fourier du potentiel, l'opérateur, la composante de Fourier recul de l'opérateur densité, et puissance moins QR. R est l'opérateur associé à la particule sonde. Et si je prends l'élément de matrice de puissance moins IQ grand R entre KI et KF, je vois bien sûr que KI moins Q doit être égal à KF, c'est-à-dire que Q est égal à KI moins KF. Donc la partie particule sonde, l'élément de matrice de particule sonde, ça paraît une fonction delta de conservation de l'impulsion. De sorte que la Hamiltonienne d'interaction, l'élément de matrice de H interaction entre KI psi et KF psi F, c'est 1 sur L3, U indice Q, l'élément de matrice de Rho Q entre psi et psi F, avec Q égale KI moins KF. Alors, ayant l'élément de matrice, j'ai immédiatement le taux de transition, la probabilité de transition par unité de temps par la règle d'or de Fermi, c'est 2 pi sur H bar, le module au carré de l'élément de matrice, 1 sur L6, UQ carré, psi F, Rho Q psi au carré delta de EF, moins EI, moins H bar oméga, où H bar oméga est égal à epsilon I moins epsilon F. Et Q est égal à KI moins KF. Voilà la probabilité de transition par unité de temps. Et si on ne détermine pas l'état final du système de boson, si on regarde simplement la probabilité de diffusion par unité de temps de la particule sonde, il faut bien sûr sommer les probabilités sur les états finaux orthogonaux. Et on obtient 2 pi sur H bar L6, somme sur F de UQ carré, psi F, Rho Q psi carré, delta de EF moins EI moins H bar oméga. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple que j'ai étudié la semaine dernière, et qui est un exemple également important parce qu'il correspond à de nombreuses expériences réalisées actuellement sur les condensats, c'est le problème de la diffusion de Bragg, diffusion rarement stimulée. Et vous vous rappelez que la Hamiltonienne d'interaction pour l'exemple 2, donc j'étudie actuellement les deux exemples, donc exemple 1 et l'exemple 2, ont considéré un processus de diffusion stimulée correspondant à l'absorption d'un photon incident K1 oméga 1, l'émission stimulée d'un photon K2 epsilon 2, et la Hamiltonienne d'interaction s'écrit H bar oméga R sur 2, où oméga R est la fréquence de radio effective de la transition à deux photons, somme sur I de 1 à N, des puissances IQRI moins oméga T plus un midi conjugué, et on voit réapparaître de nouveau, rho et discule, la transformée Fourier de l'opérateur densité spatiale, H bar oméga R sur 2, Rho Q et puissance moins I oméga T, plus Rho Q croix et puissance plus I oméga T. De sorte que, pour l'exemple 2, si je repars de cet Hamiltonien, interaction, donc correspond à cette diffusion rarement stimulée, le système de N bosons passant d'un état initial psi d'énergie E à un état final psi F d'énergie F, l'élément de matrice est tout simplement H bar oméga R sur 2 et puissance moins I oméga T, Rho Q psi psi F. Je retrouve le même élément de matrice pour le système de bosons. Et le taux de transition, c'est 2 pi sur H bar oméga R sur 2 au carré, somme sur F, de cet élément de matrice au carré, la fonction delta de conservation de l'énergie. Alors, à ce stade, on peut maintenant dire des choses générales. On voit que la structure générale de l'amplitude de transition est la suivante. On a un produit de deux termes. Le premier terme, UQ pour le premier, par exemple, H bar oméga R sur 2 pour le deuxième exemple, ne dépend que du potentiel d'interaction de la particule sonde incidente et d'une particule cible, d'une seule. Le potentiel d'interaction U ou la fréquence de radi correspondant au produit des deux fréquences de radi d'absorption et d'émission stimulée. Ce terme serait le même si, au lieu d'étudier la diffusion par un système de grand N particules, j'étudiais la diffusion par une seule particule. Et il interviendrait en particulier dans la section efficace de diffusion d'une seule particule. Le second terme, lui, est relatif au système des N bosons, et c'est l'élément de matrice de la transformée Fourier spatiale de l'opérateur densité spatiale à un corps, entre l'état initial et l'état final du système de bosons. Et lui, il dépend donc du système du fait qu'on a N bosons et non pas 1, et il va décrire l'effet des interférences entre les diffusions des diverses particules qui constituent le système de N bosons. Alors, si on fait le lien avec l'expérience, expérimentalement, on mesure la perte d'impulsion H bar Q égale H bar KI moins KS de la particule sonde incidente. On mesure la perte d'énergie H bar oméga égale epsilon I moins epsilon S de la particule incidente, soit l'atome, soit le photon. Donc, expérimentalement, on mesure Q et oméga. Et on mesure la probabilité de diffusion dans une direction donnée, avec une énergie donnée. On connaît par ailleurs la section efficace de diffusion par une seule particule cible, un seul atome cible. Donc on connaît UQ ou H bar oméga R sur 2. Donc la mesure du taux de diffusion par unité de temps, de la probabilité de diffusion par unité de temps par le système, va nous permettre de mesurer cette quantité qui est somme sur S de psi F rho Q psi carré delta de S moins DI moins H bar oméga. Donc c'est cette quantité auquel on peut avoir accès expérimentalement en mesurant un spectre de diffusion. Donc, ayant introduit donc à partir de cette étude générale, on peut maintenant définir précisément ce qu'on appelle facteur de structure dynamique. Et on les nomme S, en général, S de Q et de oméga. Alors, il y a ici plusieurs possibilités. Certaines personnes parlent de S de H bar Q et en impulsion énergie, si je parle en vecteur d'onde fréquence angulaire, c'est simplement des changements d'unité, c'est pas très dramatique. Et donc, la définition que je vais choisir ici, c'est Q et oméga. Et donc, pour un système de bosons dans l'état initial psi, le facteur de structure dynamique S de Q oméga est par définition somme sur F de psi rho Q psi S psi rho Q psi F en module au carré delta de F moins I sur H bar moins oméga. La plupart du temps, on prendra pour psi l'état fondamental du système de N-boson, c'est-à-dire l'état du condensat. Si ce n'est pas le cas, si on a un mélange statistique d'état psi, évidemment, cette formule est à changer légèrement. Il faut ajouter somme sur I de pi, où pi est le poids des états qui constituent le mélange statistique. Alors, si vous regardez cette formule, il y a une interprétation immédiate en termes de spectre. Vous voyez que cette formule montre que le spectre de diffusion est constitué par une série de fonctions delta centrées aux fréquences de bord du système EF moins EI sur H bar qui relie l'état dont on part à tous les autres états avec des intensités qui sont finalement les forces, en quelque sorte, les forces oscillateurs de ces transitions sont les éléments de matrice de recul entre l'état initial et l'état final en module au carré. Donc ça donne le spectre de diffusion. Il y a une deuxième interprétation qu'on peut donner du facteur de structure dynamique en termes de fonction de corrélation. Elle est la suivante. J'ai posé oméga FI égale EIF moins EI sur H bar, donc j'ai la fonction delta de oméga FI moins oméga, dont la représentation intégrale peut s'écrire 1 sur 2 pi, somme de moins l'infini à plus l'infini, de dt puissance IF moins EI moins H bar oméga t sur H bar. Je remplace la fonction delta ici par cette représentation intégrale, et j'obtiens 1 sur 2 pi, somme de moins l'infini à plus l'infini, de dt puissance moins i oméga t, que multiplie cet élément de matrice, l'élément de matrice complexe conjugué, et puissance moins i et f moins i t sur h bar. Maintenant, cette quantité-là, et puissance moins i et i t sur h bar, je peux considérer que c'est puissance moins i h t sur h bar, l'hamiltonien h, agissant sur psi. Et puissance i f t sur h bar, c'est et puissance i h t sur h bar, agissant sur le bras phi f. Donc je peux réécrire cette quantité comme l'élément de matrice entre psi f et psi de rho q pris en sandwich entre puissance iht et puissance moins iht. À ce moment-là, la somme sur f fait apparaître la relation de fermeture. Elle disparaît, c'est 1, somme sur f de psi f, psi f, c'est 1. Et je vois apparaître que s de q et de oméga, c'est 1 sur 2 pi, somme de moins l'infini à plus l'infini de dt puissance moins i oméga t, psi rho q, croix, rho q à l'instant t dans le point de vue de Heisenberg. Donc, ce simple petit calcul montre que le facteur de structure dynamique est la transformée Fourier temporelle de la valeur moyenne dans l'état initial d'un produit de deux opérateurs densité spatiale, en transformée Fourier q, l'un pris à l'instant t égale 0, l'autre pris à l'instant t différent de 0. D'accord? Donc c'est une fonction de corrélation. On peut encore aller plus loin. Ici, je vois apparaître un produit de deux reculs, à des instants différents, mais c'est deux reculs, et les reculs sont des transformés de Fourier. Et on sait que la transformée de Fourier d'un produit est un produit de convolution, et réciproquement, la transformée de Fourier d'un produit de convolution est un produit. Donc, quand j'ai deux reculs K, un produit de deux reculs K, c'est la transformée de Fourier par rapport à R d'un produit de convolution de 2 ρi de R. Donc, c'est somme de d3R', la valeur moyenne en psi, de ρi au point R' à l'instant 0, ρi au point R' plus R à l'instant t, intégré sur R'. Et on voit donc apparaître une nouvelle interprétation très séduisante du facteur de structure dynamique. C'est la transformée de Fourier spatio-temporelle d'un objet qui décrit les corrélations entre deux densités spatiales prises en deux points différents séparés de R et deux instants différents séparés de T. Donc, en quelque sorte, le facteur de structure dynamique décrit la dynamique des fluctuations spatio-temporelles du système. Il décrit comment le système fluctue dans l'espace et dans le temps. Alors, donc ça c'est une deuxième interprétation en termes de fonction de corrélation. Et pour rendre ces idées-là un peu plus concrètes, il est intéressant d'étudier un exemple simple. Et je vais prendre donc maintenant un exemple simple du calcul de structure, de facteurs de structure dynamique d'un système de grand N bosons sans interaction. L'état psi, c'est un état où j'ai N1 boson, je m'excuse, il y a une erreur ici, c'est N1 boson dans l'état phi1, N2 boson dans l'état phi2, N alpha boson dans l'état phi alpha. Les phi alpha sont une base orthonormée d'état à une particule d'énergie epsilon alpha. Évidemment, j'ai la somme sur I de Ni égale grand N, le nombre total de particules. Alors, à ce moment-là, je vous rappelle que l'opérateur ρQ, c'est somme sur I de 1 à N de puissance IQ opérateur RI, et la règle en seconde quantification, quand on a une somme d'opérateurs à une particule, on prend l'opérateur à une particule, on le prend sandwich entre phi alpha et phi bêta, on associe à phi bêta à bêta 3 et à phi alpha à alpha. Donc l'expression de recul en seconde quantification, quand je prends cette base, c'est somme sur alpha, somme sur bêta de à bêta 3 à alpha, phi bêta et puissance IQR phi alpha. Alors calculons, il faut qu'on calcule l'élément de matrice de recul entre psi et psi f. Calculons recul psi. Alors, dans cette double somme, j'ai des termes alpha égale bêta, et j'ai des termes alpha différents de bêta. Prenons d'abord les termes alpha égale bêta. Donc, j'ai qu'une seule somme. À ce moment-là, j'ai alpha A alpha 3 A alpha, l'élément de diagonale de l'épuissance IQR entre phi alpha et phi alpha, et A alpha 3 A alpha agissant sur un état comme ça, comme l'état N alpha est un état propre de A alpha 3 A alpha, c'est N alpha. Donc, recul psi, c'est recul agissant sur ceci, c'est somme sur alpha de n alpha, l'élément diagonal de puissance IQ scalaire R, m'excuse, c'est Q et non pas K, entre phi alpha et phi alpha, N1, n alpha, n bêta. Il faut maintenant que je prenne le terme bêta différent de alpha. Somme sur alpha et sur bêta différent de alpha. Alors, alpha diminue alpha d'unité avec un racine de n alpha, a bêta 3 augmente bêta, n bêta d'unité avec racine de n bêta plus 1, et j'obtiens donc somme sur alpha, somme sur bêta différent de alpha, racine de n alpha, n bêta plus 1, et puissance IQR entre phi alpha et phi bêta, avec, multiplié par l'état, n1, n alpha moins 1, n bêta plus 1. Donc ce petit calcul simple montre que recul agissant sur psi, dans deux types d'états, psi f ne peut être que deux types d'états, ou le même état que l'état psi, ou un état où il y a deux nombres d'occupations qui changent, l'un qui diminue d'une unité, l'autre qui augmente d'une unité. Et à ce moment-là, je vais avoir deux termes dans le facteur de structure dynamique. F élastique de Q delta de oméga plus F inélastique de Q et de oméga. F élastique de Q, c'est le terme alpha égale bêta. Donc c'est le terme où psi F égale psi. C'est donc recu psi psi en module au carré. Et comme EI ne change pas, la particule n'a besoin de céder aucune énergie, il y a delta de oméga simplement. Epsilon f moins d'epsilon i est égal à 0. Donc, S élastique de Q, c'est, je n'ai pas cette expression. Je remplace l'expression par champ sur alpha de N alpha, phi alpha et puissance IQR, phi alpha, le tout en module au carré. Et si je regarde cette expression, ceci c'est somme sur D3R de phi alpha carré de R et puissance IQR, et N alpha phi alpha carré de R sommé sur alpha, c'est la densité spatiale à un corps. Donc, dans l'état psi, donc je m'aperçois que ce terme-là, c'est le module au carré de somme de D3R, la valeur moyenne de la densité à un corps dans l'état psi et puissance IQR. Autrement dit, ce terme qui décrit la diffusion élastique, c'est tout simplement la transformée de Fourier, le carré du module de la transformée de Fourier spatiale de la densité de particules dans l'état psi. Quant au deuxième terme, lui, comme bêta est différent de alpha, j'ai epsilon bêta moins epsilon alpha sur alpha, donc EI moins EF doit être égal à oméga, moins oméga doit être égal à epsilon bêta moins epsilon alpha sur alpha, donc la fonction delta ici est ceci, et le racine de n alpha n bêta plus 1 va me donner au carré n alpha n bêta plus 1, j'aurai donc somme sur alpha, somme sur bêta différent de alpha, n alpha n bêta plus 1, cet élément de matrice au carré, delta, la fonction delta de conservation de l'énergie. Donc, je m'aperçois que, dans ce cas-là, il y a deux types de diffusion. Diffusion élastique, diffusion sans changement d'état du système de boson, pas changement d'énergie de la particule diffusée, et S de Q est le module carré de la transformée de Fourier de la densité spatiale moyenne dans l'état psi. Donc ça, c'est très utile si on veut savoir à quoi représente la densité de particules. On en détermine la transformée de Fourier spatiale grâce à la diffusion élastique. Quant à la diffusion inélastique, elle, bien sûr, elle donne un spectre qui n'est plus monochromatique, mais qui correspond à toutes les fréquences de bord du système, epsilon bêta moins epsilon alpha, quand une particule change d'état, et elle fait intervenir, on voit apparaître un facteur bosonique, dont l'interprétation est très claire, le processus de diffusion est proportionnel au nombre de particules qui est dans l'état initial, et quand la particule est diffusée de l'état alpha à l'état bêta, elle va dans un état qui est occupé, donc on a une probabilité de transition qui est n bêta plus 1, c'est le terme de stimulation bosonique. Voilà donc un exemple simple de facteur de structure. Et je vais passer maintenant au deuxième facteur de structure qu'on appelle le facteur de structure statique. Et avant de le définir, j'introduis d'abord une idée importante qui est l'approximation quasi-statique. Je vais supposer dans ce paragraphe la chose suivante sur l'énergie de la particule sonde incidente. La particule sonde incidente sert à exciter le condensat ou le système de n particules d'un état psi à un état psi f, et donc l'énergie qu'elle perd, h bar oméga, correspond aux énergies des excitations du système de n boson. Et ça va couvrir un certain domaine spectral. Je vais supposer que l'énergie initiale de la particule cible, de la particule incidente, sonde, est très grande devant l'étendue de ce spectre. Donc, cette particule, quand elle va exciter le condensat, va perdre peu d'énergie. Donc, quand E initial diminue de h bar oméga, le module de l'impulsion de la particule sonde va diminuer très peu. D'accord? Et par suite, Q, son transfert d'impulsion, va diminuer très peu. Et je vais pouvoir négliger, quand je balaye le spectre de diffusion, la variation de Q. Alors vous allez me dire, mais comment on fait varier Q? En fait, dans ces expériences, Q varie et choisit en faisant varier l'angle entre la direction initiale de l'impulsion de la particule incidente et la direction finale. Donc, le transfert d'impulsion dépend de l'angle θ entre la particule incidente qui excite le condensat et la particule finale dans la diffusion. Donc, l'angle dépend du changement, le transfert d'impulsion dépend du changement d'angle, mais pour un angle donné, quand je balaye oméga, Q varie très peu. Donc je peux, dans les expressions qui précèdent, faire varier oméga en considérant que Q est fixe. Alors, l'exemple de la diffusion Raman stimulée, de la diffusion de Bragg, est particulièrement instructif à cet égard. Je vous rappelle que la diffusion de Bragg, où on absorbe K1, oméga 1, et où on fait une émission stimulée K2, oméga 2, en général, quand on veut transmettre à la particule une grande impulsion, on prend par exemple les deux vecteurs, K1 et K2, de direction opposée. Alors là, on peut dessiner, faire un petit diagramme. Voilà l'impulsion et l'énergie du photon incident, H bar oméga, H bar K1, et puis il y a l'émission stimulée, H bar oméga 2, H bar K2. Ceci, ça correspond à l'énergie de l'excitation élémentaire du condensat, c'est des phonons, des particules libres, et ceci, c'est une énergie optique. Donc, H bar oméga peut être 10 000 fois plus petit que H bar oméga 1 et H bar oméga 2. Donc, quand je balaye, quand oméga 1 étant fixe, je balaye oméga 2, je déplace l'extrémité de cette flèche rouge là, et je peux négliger les variations correspondantes de H bar Q. Ma figure n'est pas à l'échelle, bien sûr. Ici, ma figure, il y a H bar oméga qui est à peu près 5 fois plus petit que H bar oméga 1 et H bar oméga 2, mais si c'est 10 000 fois plus petit, on peut complètement négliger la variation de H bar Q. Donc, l'approximation quasi-statique consiste à considérer qu'on peut, dans une expérience, faire varier oméga, le transfert d'énergie, sans toucher au transfert d'impulsion, ou en le considérant comme tout à fait négligeable. En toute rigueur, c'est faux. Quand on change oméga, on change en même temps Q, et donc il faut faire changer les deux. Mais ici, on peut négliger la variation de Q, et ceci permet donc de définir une quantité qui a un sens physique. On appelle F de Q le facteur de structure statique. Il est normalisé, on le divise par N, pour des raisons de normalisation, et on intègre sur oméga F de Q et d'oméga, à Q fixé. On peut toujours introduire cette quantité, mais dans le cas de l'approximation statique, elle a un sens physique en plus, elle représente l'intensité totale diffusée dans une direction donnée. Elle représente donc la diffusion totale indépendamment de son énergie dans une direction donnée. Alors, on peut tout de suite donner une expression équivalente pour S de Q. Si on revient à l'expression de S de Q d'oméga, qui est la somme de cet élément de matrice au carré et la fonction delta, quand j'intègre sur delta, oméga, oméga n'apparaît qu'ici, et l'intégrale d'une fonction delta, c'est 1. Donc la somme sur oméga de ceci, c'est la somme sur oméga de delta oméga, c'est 1. Donc S de Q, c'est tout simplement 1 sur n, la somme des carrés des éléments de matrice reliant psi à tous les états finales possibles psi f. Alors, ceci, je peux l'écrire psi comme ρ Q croix psi f, psi f ρ Q psi. À ce moment-là, je fais apparaître la relation de fermeture sur psi f. Et tout simplement, le facteur de structure statique, c'est la valeur moyenne dans l'état psi, un facteur 1 sur n près, de ρQ croix, ρQ, du produit ρQ croix, ρQ, de deux opérateurs, l'un adjoint l'un de l'autre, mais deux opérateurs densité spatiale. Et là, on peut tout de suite donc donner une interprétation en termes de fonction de corrélation. En effet, j'ai un produit de deux transformés de Fourier, ρQ croix et ρQ. Donc, voilà, S de Q. Donc, S de Q est la TF spatiale, la transformée de Fourier spatiale par rapport à R, du produit de convolution de ρI de R, ρI de R, produit de convolution, c'est-à-dire somme de D3R', psi I ρI de R', qui multiplie ρI de R' plus R, psi I. Donc, à la différence de tout à l'heure, vous avez une transformée de Fourier spatio-temporelle, avec deux positions différentes et deux instants différents. Ici, deux positions différentes, mais le même instant. Alors, on peut encore transformer ça légèrement. Dans le cours précédent, donc dans le transparent 14, je vous avais montré simplement, en jouant avec les relations de commutation des opérateurs champs, que ρ1 de R' plus R, c'est ρ1 de R' delta de R, le commutateur de psi, psi croix, plus ρ2 de R' plus R, ou ρ2, la densité de corps, et l'intégrale sur R' de ceci, ça va me donner n, delta de R, divisé par n, ça fera delta de R, plus 1 sur n, somme de D3 R', psi ρ2 R' plus R. Et cette grandeur est très importante, expérimentalement pour la raison suivante. Je vous avais montré tout à l'heure que si je prends la diffusion élastique, et si je regarde la diffusion élastique, si je fais varier Q, je mesure le module carré de la distribution de densité dans l'état psi, on peut faire la même chose maintenant pour la diffusion totale, élastique plus inélastique, c'est S de Q, sans distinguer l'élastique de l'inélastique, et on peut donc mesurer S de Q pour différentes valeurs de Q, en mesurant donc l'intensité totale diffusée en fonction de l'angle. Et par transformée Fourier inverse, et après soustraction du terme N delta de R, c'est-à-dire 1 en transformée Fourier, on va déduire la quantité somme de D3 R' psi rho 2 de R', R' plus R. Et ça, c'est la probabilité de trouver deux atomes différents dans le système de N-boson séparés d'une distance R. Et ça, c'est une fonction extrêmement importante en physique statistique, c'est la fonction de corrélation de paire. C'est la probabilité de trouver deux atomes différents séparés par une distance R. Et si on porte ça en fonction de la distance R, on va trouver les corrélations spatiales en particules à un instant donné. Donc, vous voyez que ces deux grandeurs nous donnent accès à des propriétés physiques importantes du système. Et ici, je n'ai fait aucune approximation, à part, bien sûr, l'approximation consistant à utiliser l'approximation de Born, c'est-à-dire un régime de perturbatif. Alors, j'apporte maintenant une quatrième partie, maintenant, les polarisabilités. C'est d'abord la polarisabilité dynamique. Alors, on peut définir la polarisabilité dynamique de manière extrêmement générale. Prenons le système S, d'Hamiltonien A0, je m'excuse, j'ai oublié le 0, d'état propre psi n et d'énergie et n, et j'appelle psi 0 l'état fondamental. Et je vais supposer, si vous voulez, que, par exemple, mon système est dans l'état fondamental initialement. J'appelle oméga n0 les fréquences de bord qui relient l'état fondamental à tous les états excités. Et je suppose que je soumets ce système à une perturbation sinusoïdale, H interaction de T, qui est égale à lambda sur 2, A est puissance moitié oméga T plus A croix est puissance I oméga T. Lambda est une constante réelle, ce qui va me permettre de définir si la perturbation est forte ou faible. A est un opérateur, qui n'est pas hermétique ici. Si c'était hermétique, j'aurais simplement lambda A cosinus oméga T. Et je vais supposer que cette perturbation est branchée tout doucement de moins l'infini, de t égale moins l'infini à t égale 0, ceci pour éviter les phénomènes transitoires, pour assurer que le système reste en régime d'oscillation forcée. Donc, pour cela, on remplace tout simplement E puissance plus ou moins I oméga t par E puissance plus ou moins I oméga t, E puissance état de t, où état est une quantité qui tend vers 0 par valeur positive, à la fin des calculs. Donc, on branche tout doucement la perturbation. À ce moment-là, si je prends une autre observable B, et sa valeur moyenne dans l'état perturbé à un instant positif, à l'ordre 1 en lambda, va donc s'écrire B de t égale lambda sur 2. Il y aura un terme en épuissance moins i oméga t, un terme en épuissance i oméga t, et puis un coefficient ici que j'appelle qui ba de oméga, un coefficient que j'appelle ici qui ba croix de moins oméga, parce qu'il provient de ce terme-là. Et vous voyez à ce moment-là que ces quantités qui vont apparaître comme des susceptibilités, des polarisabilités avec une partie réelle et une partie imaginaire, et ça va me décrire la réponse du système à la perturbation. Et si vous voulez, vous comprenez la notation, qui, la réponse sur B de la perturbation produite par A, et qui B à croix, c'est la réponse sur B de la perturbation à croix, et oméga parce que c'est une perturbation en puissance moins i oméga t, et puissance i moins oméga ici parce que c'est une perturbation en puissance i oméga t. Alors, le calcul de qui ne pose aucun problème. Hein, il suffit de résoudre les équations Schrödinger, mais excusez-moi, dans la prochaine transparence, il y a un nombre d'erreurs incroyable. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris en recopiant mon brouillon. Et il sera corrigé dans les notes sur le web, mais en fait, toutes les corrections sont marquées ici. C'est un calcul élémentaire, disons, de mécanique quantique. on écrit IH bar D sur DT de psi DT égale H0 plus H interaction de T psi DT. On développe psi DT sur les états propres de H0 en incluant ici et puissance moins INT sur H bar l'évolution libre et CN de T. Et puis on résout cette équation à l'ordre 1. À l'ordre 0 lambda, on est parti de l'état fondamental, donc j'ai C0 de T égale 1 et CN de T égale 0, CN différent de 0. À l'ordre 1 en lambda, on va supposer, si vous voulez, qu'on a remis les éléments diagonaux de A dans l'hamiltonienne en perturbé. Donc je vais supposer que l'hamiltonienne n'a pas d'élément de matrice, A n'a pas d'élément de matrice entre psi 0 et psi 0. Et on obtient cette équation pour C'. Moins I lambda sur 2 H bar, et puissance I oméga N0 moins oméga moins I est assez, A N0, et puissance plus ici, et un plus ici, A N0 plus. Bon, je ne dis pas cette équation, elle n'a aucune difficulté à établir. On établit l'expression de CN de T qui est ici, avec donc ces erreurs que j'ai commises, et on remet ça dans psi de T, et on obtient l'expression de psi de T en mettant le facteur de phase globale et puissance I0 T sur H bar, c'est psi 0, plus une superposition linéaire de tous les autres états, avec un coefficient en épuissance moins i oméga t, et un coefficient en épuissance plus i oméga t, le premier proportionnel à n0, le deuxième proportionnel à n croix 0. Alors, une fois qu'on a psi de t, on peut calculer la valeur moyenne de b dans psi de t, à l'ordre 1 en lambda. Alors ici, il n'y a pas d'erreur, c'est l'essentiel. Hein. C'est le résultat, donc b de t à l'ordre 1, c'est donc qui, lambda sur 2, qui BA de oméga puissance moins i oméga t, plus qui BA plus de moins oméga puissance i oméga t, et qui BA et qui BA 3 apparaissent comme une somme de termes avec des produits de deux éléments de matrice, l'un de A, l'un de B, divisés par des dénominateurs d'énergie, oméga moins ou plus une fréquence de bord du système, et plus ou moins i état qui provient du branchement adiabatique. Alors, il faut bien voir qu'en fait, quand je fais tendre état vers zéro, il n'y a pas de problème, parce que le spectre des états d'un système de n particules est en général un spectre continu, qu'on tient compte de tous les couplages. Donc les n varient d'une manière continue, et la présence de plus ou moins i état dans le dénominateur, quand on fait développer 1 sur quelque chose plus ou moins i état, on fait apparaître une partie principale et une fonction delta, et ça fait apparaître un terme réel et un terme imaginaire. Le seul cas qui poserait un problème, si s'il y avait un vrai état discret, et s'il y avait un vrai état discret, D, à ce moment-là, si on met l'excitation juste à la fréquence correspondant à l'état discret, on ne peut plus faire d'approximation adiabatique. Pour ça, il suffit de revenir à un spin 1/2. Si vous avez un spin 1/2 sans dissipation, et si vous l'attaquez à résonance par un champ juste à résonance, à ce moment-là, dans le référentiel tournant, il tourne indéfiniment autour du champ effectif associé à la perturbation, et il n'y a pas de transition adiabatique. Par contre, si on n'est pas résonant, bien sûr, et si on branche tout doucement la perturbation, on va suivre le champ efficace total. Mais en général, c'est une situation pathologique et la limite état tendant vers 0 plus ne pose pas de problème. Alors, je crois qu'il est très important maintenant d'illustrer ces considérations un peu abstraites sur un exemple important. Supposer que je soumette le condensat à une perturbation, à un potentiel qui dépend de R et de T, mais qui est périodique en R et T. Par exemple, la division de Bragg, ce n'est rien d'autre que ça. Hein. On met deux ondes laser, K1 oméga 1, K2 oméga 2. Elles interfèrent pour donner une onde de vecteur d'onde Q et de fréquence oméga. Et comme elle est non-résonance, le déplacement lumineux correspondant va donner un potentiel effectif qui va être un potentiel de vecteur d'onde Q et de fréquence oméga. Donc on soumet le condensat donc à une perturbation U0 cosinus, somme sur I de 1 à N, de U0 cosinus QRI moins oméga T. Alors je développe le cosinus, et j'ai donc U0 sur 2, somme sur I de puissance IQRI et puissance moins I oméga T, je m'excuse, il y a un moins ici, plus H bar hermétique conjugué, et sigma I de puissance IQRI, vous reconnaissez là l'opérateur, la transformée de Fourier de l'opérateur densité spatiale, ρQ. Donc la perturbation du condensat, c'est U0 sur 2, ρQ et puissance moins I oméga T, plus ρQ fois puissance oméga T, c'est d'ailleurs là, encore là-bas, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, mais à part que dans le processus Raman, ce qui joue le rôle de U0, c'est la fréquence de radis effective de la transition à deux photons. Donc, si je compare avec la formule de tout à l'heure, vous avez lambda sur 2 A plus A croix, j'ai lambda égale 0 et A 0 plus. Donc ça, c'est typiquement le cas de la diffusion de Bragg. Quelle est la réponse qui m'intéresse? Donc, à cette perturbation que j'applique au condensat, je regarde la réponse et je regarde l'onde de densité que ça produit. Donc, on secoue le condensat, donc, avec une perturbation qui dépend de QI de R. Donc, il va apparaître une onde et je regarde l'onde de densité moyenne qui a la même vecteur d'onde Q et la même fréquence oméga que celle de l'excitation. Donc, B, c'est la composante de rho 1 de R qui varie en puissance plus ou moins IQ scalaire R moins oméga T. Alors, qu'est-ce que c'est que B? Donc, il faut faire attention, il faut aller un peu plus loin maintenant. Je rappelle l'expression de rho 1 de R. Rho 1 de R, c'est L moins 3, 1 sur L3, somme sur K de rho K et puissance moins IKR. Quand je prends la valeur moyenne, la composante en Q de rho moyen 1, valeur moyenne de rho 1 de R, provient de L moins 3, rho moins Q, et puissance IQR, parce que si je veux avoir I puissance IQR ici, il faut que je prenne K égale moins Q, donc c'est rho moins Q. Donc, c'est la valeur L moins 3. Qu'est-ce que c'est que rho moins Q? Vous avez établi la semaine dernière que rho moins Q, c'est rho plus croix. Donc, c'est L moins 3, rho plus croix, et puissance IQR. Donc, la composante de vecteur d'onde Q de la densité spatiale moyenne, c'est la valeur moyenne de L moins 3, rho plus. Donc, B, l'opérateur B, l'opérateur B, c'est 1 sur L3, rho Q plus. Rho plus croix, pardon. Donc, la susceptibilité que je dois calculer, j'excite sur rho Q et je regarde rho Q croix. Donc, la susceptibilité concernée, c'est qui recule croix recule. Et conclusion de tout ceci, l'excitation U0 cosinus QR moins oméga T produit une onde de densité moyenne U0 sur 2L3 qui recule croix recul de oméga et puissance IQA moins oméga T plus complexe conjugué. Il n'y a aucune raison que ceci soit réel, parce que si ceci était réel, j'aurais U0 sur 2L3 qui cosinus QA moins oméga T, j'aurais une excitation qui serait parfaitement en phase avec, la réponse serait parfaitement en phase avec l'excitation. Le système a du retard, hein, et donc la réponse va être déphasée par rapport à l'excitation. Donc qui est imaginaire? Une partie réelle et une partie imaginaire. Alors cette notation est un peu lourde, comme c'est surtout cette susceptibilité qui est importante, si vous permettez, je vais changer de notation et je vais appeler qui de oméga, qui de Q et de oméga, la quantité qui rho Q plus rho Q, qu'on appelle encore la fonction de réponse densité-densité. On attaque sur la densité et on regarde sur la densité. Comme je vous l'ai dit dans la semaine dernière, c'est la densité spatiale qui joue un rôle central dans tous ces problèmes. Et l'expression de tout à l'heure, que j'avais trouvé pour qui, donc qui, c'est des produits d'éléments de matrice de recul et de recul croix divisés par des dénominateurs d'énergie. Et comme recul croix 0n, c'est recul n0 complexe conjugué, je vois apparaître ici l'élément de matrice en modulo carré de recul entre psi 0 et psi n, divisé par ce dénominateur d'énergie, moins l'élément de matrice de recul croix entre psi 0 et psi n, divisé par ce dénominateur d'énergie. Et ici, faites-moi confiance, il n'y a pas d'erreur, hein, par rapport à tout à l'heure. Donc ça, c'est la formule essentielle. Alors, on peut aller encore un cran plus loin. La plupart des systèmes qu'on étudie possèdent des symétries, soit la symétrie de réflexion d'espace, soit la symétrie de réflexion de temps, de renversement du sens du temps. Dans les deux cas, on peut démontrer que pour un système invariant par réflexion d'espace ou par renversement du temps, le module au carré de l'élément de matrice de recul entre psi 0 et psi n, c'est la même chose que le module au carré de l'élément de recul croix entre psi 0 et psi n. Par exemple, pour le renversement du temps, on peut prendre, si le système est invariant par inversement du temps, prendre des fonctions d'onde, des états propres réels, donc si 0 et psi n sont réels, et le renversement du temps change les complexes conjugués, change i en moins i, rho q c'est puissance iqr, rho q c'est puissance moins iqr, donc le renversement du centre du temps me remplace rho q croix par rho q. Et donc j'ai démontré que les deux modules au carré sont les mêmes. Si c'est invariant par réflexion d'espace, ici je vais avoir un signe plus ou moins pi 0, la parité de pi 0, la parité de pi n, mais pi 0 au carré c'est 1, pi n au carré c'est 1, et le transformer par parité de rho q croix, et puissance i moins iqr, quand je fais une réflexion d'espace, ça change r en moins r, donc ça me change et puissance moins iqr en et puissance iqr, et ça se transforme donc rho q croix en rho q. Et donc les éléments de matrice tout seuls ne sont pas forcément les mêmes, si pi 0 et pi n sont de signes différents, mais quand je prends le module au carré, les modules au carré des éléments de matrice sont les mêmes. Donc, ces deux... il y a quand même une erreur là, j'ai oublié le truc au carré, ça c'est... Bien sûr, ici, il y a... Et donc, ces deux termes peuvent être regroupés, et j'obtiens finalement pour qui de Q et de oméga somme sur n différentes 0 de psi 0 rho Q psi n en module au carré. Et quand je réduis les deux dénominateurs, les deux fractions, j'ai 2 fois en moins n 0 sur h bar 2 oméga plus i eta en module au carré, moins en moins e 0 en module au carré. Alors, il y a une autre polarisabilité qui joue un rôle important, c'est la polarisabilité statique, qu'est-ce qui se passe si je fais tendre oméga vers 0. Si par exemple dans le cas de la diffusion de bras, je prends les deux ondes laser se propageant en sens opposé ou avec un certain angle, mais rigoureusement de même fréquence. À ce moment-là, j'ai une onde stationnaire qui ne bouge pas, qui oméga égale 0. Alors, à ce moment-là, qui de Q et de 0 représente la réponse statique en densité. Je soumets le condensat à une perturbation statique, le force à osciller dans l'espace comme ça, mais sans bouger, et je regarde comment la densité change. Alors, je fais apparaître une onde, U0 sur 2L3, qui de Q0 Q0 et puissance iqr plus complexe conjugué, à ce moment-là, qui est en fait réel, à ce moment-là, pour quand oméga tend vers 0, et j'obtiens U0 sur L3, qui, parce qu'il n'y a plus de retard, hein, puisque c'est statique, qui de Q et de 0 cosinus QR. Et pour un système invariant, donc qui de 0 est donné par cette expression, et quand le système est invariant par réflexion d'espace ou de temps, ces deux modules logarithmes sont égaux, et je vois apparaître une quantité importante, qui de Q et de 0 égale moins 2, somme sur n différentes 0 des carrés des modules des éléments de matrice 0Q divisé par la différence d'énergie. Alors ici, pour être tout à fait rigoureux, j'ai fait un tour de passe-passe et j'ai mis beaucoup de temps à me convaincre que le résultat était correct. En toute rigueur, la réponse statique en cosinus QR fait intervenir la limite d'une autre chose. Fait intervenir la limite oméga tendant vers 0 de la réponse Q moins oméga, de la réponse en cosinus QR plus oméga T. J'ai non seulement la réponse en cosinus QR moins oméga T, mais j'ai aussi la réponse en cosinus QR plus oméga T. Donc la susceptibilité statique fait intervenir donc la limite oméga tendant vers 0, non seulement de qui rho Q plus rho Q, qui est ici, mais qui de rho Q plus rho Q plus. J'excite sur rho Q plus et je regarde sur rho Q plus. Mais, alors, je vous le démontrerai la prochaine fois, pour un condensat homogène, ou pour un condensat dont les dimensions spatiales sont très grandes devant l'inverse de Q, c'est-à-dire si on prend une excitation avec une longueur d'onde qui est beaucoup plus petite que les dimensions du condensat, à ce moment-là, on démontre que qui est rho Q plus est nul. C'est-à-dire que si j'excite en cosinus QR moins oméga T, je ne peux pas avoir une réponse en cosinus QR moins oméga T. Si j'excite avec une onde progressive dans cette direction, le condensat ne peut pas me répondre avec une onde progressive de même vecteur d'onde, mais se propageant dans la direction opposée. De même fréquence, mais pour la direction opposée. Donc, c'est correct, ce que j'ai dit est correct. Donc, qui rho Q plus est nul, et pour avoir la susceptibilité statique, je peux simplement considérer la limite oméga tendant vers 0 de cette quantité, et le résultat que j'ai donné est correct. Par contre, évidemment, si je considère un condensat et que je l'excite par quelque chose dont les longueurs d'onde sont de l'ordre des dimensions du condensat, à ce moment-là, ce que j'excite en fait, c'est les modes propres de vibration du condensat, et la description en termes d'ondes progressives n'a plus grand sens. Enfin, je termine par un dernier point, qui est important aussi, qui est le problème des moments. Moment de SQ de oméga. Alors, le moment, comme son nom l'indique, SQ de oméga, c'est une densité spectrale, hein, ça me représente la répartition de probabilité de oméga pour un Q fixé. Et si je regardais le moment d'ordre K de cette distribution, je prends somme de moins l'infini plus l'infini de SQ de oméga, oméga K de oméga, et ça, c'est le moment d'ordre K. Alors, si je reviens maintenant à l'expression de SQ de oméga, c'est somme sur n de l'élément de matrice de recul entre psi 0 et psi n au modulo carré. Tiens, je ne sais pas pourquoi cette barre est plus grande que celle-là, mais ce n'est pas grave. Delta de oméga moins en moins v0 sur h bar. Et ça, c'est le mq. Donc il faut que je multiplie ceci par oméga à la puissance k. Et j'intègre sur oméga. J'obtiens donc ceci en modulo carré, que multiplie somme de moins l'infini à plus l'infini de delta de oméga moins en moins v0 sur h bar oméga k dk. Et ça, c'est tout simplement en moins v0 à la puissance k sur h bar à la puissance k. Donc, le moment d'ordre k, c'est la somme sur n des produits des carrés des éléments de matrice entre psi 0 et psi n que multiplie la puissance km de en moins v0. Je laisse tomber le h bar. Hein. Le h bar, c'est une question d'unité. D'accord? Et si je vais avoir la valeur moyenne de oméga indice k, c'est pas le moment qui compte, il faut que je considère que SQ de oméga n'est pas forcément normalisé. Donc si je veux avoir la valeur moyenne de oméga k, il faut que je prenne le moment d'ordre k et je normalise en intégrant SQ de oméga qui est pour faire une vraie densité spectrale de moins l'infini à plus l'infini, qui n'est autre que le facteur de structure dynamique, un facteur n près. Hein. Donc la valeur moyenne de oméga à la puissance k, c'est mk sur m0. Donc vous voyez l'intérêt des moments, c'est que si je sais les calculer, je sais calculer la valeur moyenne, le barycentre du spectre. Si je calcule oméga 2 moyen, je calculerai la variance du spectre, c'est-à-dire la largeur du spectre, et ainsi de suite. Je peux caractériser le spectre par ces moments. Alors, M0 est facile à calculer. M0, c'est somme sur n de ceci en modulo carré. C'est donc psi 0 recul croix recul psi 0, et avec l'expression de S, qui est 1 sur n, la même quantité, on voit que m0, c'est tout simplement m0 de q, c'est n s de q. C'est le facteur de structure statique au nombre de particules près. Alors, je prétends maintenant que une manière astucieuse de calculer les moments, c'est de les exprimer sous forme de valeur moyenne d'un certain nombre de commutateurs, de produits de commutateurs emboîtés. Et je prétends que M1 de Q, pour un système invariant par P ou T, c'est 1 sur 2 H bar, la valeur moyenne dans l'état psi 0, du double commutateur de recul croix avec le commutateur de H0 et de recul. Démonstration. J'explicite le double commutateur. Donc le double commutateur, c'est recul croix A0 recul plus recul A0 recul croix moins deux termes où il y a recul croix recul à l'extrême gauche ou recul recul croix à l'extrême droite. Alors, ce terme-là, d'abord, je pars de psi 0. Avec recul, je vais à psi n. Psi n est état proche de A0, donc je vais avoir en. Et je me retrouve avec psi n recul croix psi 0. Donc, ce terme-là, c'est somme sur n de en. Je vous excuse, c'est psi n recul psi 0 en modulo carré. Et un calcul identique me montrerait, pour un système invariant par P ou T, que c'est aussi la valeur moyenne dans psi 0 de recul à 0 recul croix, l'autre terme qui est ici. Donc ces deux termes, quand j'en prends la valeur moyenne dans psi 0, j'obtiens deux fois somme sur n de en que multiplie cet élément de matrice en modulo carré. Je prends maintenant ce terme-là. A0 agissant sur Φ0, ça me donne E0. Et ici, j'ai Φ0 en sandwich entre Q croix et Rho cru. Si je mets la relation de fermeture sur Φn ici, j'ai E0 somme sur N de Φn Rho cru Φ0 en module carré. C'est aussi la même chose que l'élément de matrice de A0 Rho cru Rho cru croix. Donc, quand j'ajoute deux fois cette quantité, moins deux fois cette quantité, j'ai donc deux, la valeur moyenne du commutateur, du double commutateur dans l'état psi 0, c'est 2 fois En moins 1, 0, ceci. Et ceci, c'est 2 h bar M1 de Q, ce qui démontre ma formule là. M1 de Q, c'est 1 sur 2 h bar, la valeur moyenne dans l'état psi 0 d'un double commutateur. Alors, on a l'impression, bon, so what, qu'est-ce qu'on a fait de plus? La réponse est, on peut aller beaucoup plus loin parce que si on peut calculer ces commutateurs, et on peut les calculer dans un certain nombre de cas. Si. Attendez, avant, je vais trop vite. J'ai fait ça pour M1, on peut le faire pour M2 et pour M3, et ainsi de suite. Je donne juste les formules pour M2 et pour M3, mais je n'aurai pas les utiliser dans la suite, donc je ne les commente pas. H bar 2 M2 et H bar 3 M3, c'est la valeur moyenne dans l'état psi 0, ici d'un produit de deux commutateurs, ici d'un commutateur avec un double commutateur, et en refaisant le type de calcul que j'ai fait tout à l'heure, on peut démontrer ces formules. Alors, on peut ainsi mettre tous les moments d'ordre entier, 0, 1, 2, 3, 4, sous forme de valeur moyenne de commutateurs. Et je vais vous démontrer après pourquoi c'est intéressant. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour les commutateurs d'ordre négatif, les moments d'ordre k négatif? La réponse est non, on ne peut pas. Mais par contre, pour m-1, qu'est-ce que c'est par définition? On prend la somme sur n, différente 0, de phi 0 au cube si n au carré, et on divise. Au lieu de multiplier, on divise, puisque c'est moins 1, par En moins E0 sur H bar. Donc M moins 1 de Q, c'est H bar, somme sur N différente 0, de Psi N, Rho cube, Psi 0 en module au carré, par En moins E0. Et si vous revenez un peu arrière, au transparent T39, ou T40 qui est là, vous voyez apparaître ici, à des facteurs de moins de près, la suscibilité statique. Donc, résultat intéressant, le moment d'ordre moins 1, c'est moins h bar sur 2, qui de q est de 0. Donc, le moment d'ordre moins 1 est lié à la suscibilité statique. Et si je sais calculer la susceptibilité statique par une approximation quelconque, j'ai le moment d'ordre moyen. Alors, je reviens maintenant à ce que je voulais dire tout de suite tout à l'heure. À quoi ça sert d'avoir mis les moments sous forme de double commutateur? La réponse est la suivante, c'est que ρQ, l'opérateur densité spatiale, comme son nom l'indique, ne dépend que des positions, que de l'espace, somme sur I de 1 à N de puissance IQ opérateur RI. Donc, si l'Hamiltonien ne contient, comme terme dépendant de P, qui ne commute pas avec R, que l'énergie cinétique, s'il n'y a pas de terme autre que l'énergie cinétique qui dépend de P, à ce moment-là, le commutateur de ρQ avec H0, c'est simplement le commutateur de ρQ avec P2 sur 2M, qui n'est pas compliqué. Donc, à ce moment-là, dans les commutateurs, je peux remplacer H0 par P2 sur 2M. Et on peut calculer à ce moment-là les commutateurs. Exemple. Calculons M1. Rappelons que le commutateur de A2 avec B, c'est le commutateur de A, commutateur avec B, plus AB, A. Et si je remplace donc dans A0, dans les commutateurs A0 par K, il faut que je calcule le commutateur de PI carré avec les puissances IQRI. En utilisant cette formule, je m'aperçois que PI carré commutateur avec puissance IQRI, c'est PI scalaire commutateur de PI avec puissance IQRI, plus PI, il n'y a pas de point là, hein, et puissance IQRI scalaire PI. Ce n'est pas un point, c'est une virgule. C'est Or, le commutateur de pi avec une fonction de RI, c'est moins i h bar gradient de f de RI. Donc, le commutateur de pi avec e puissance iq de RI, ça va être moins i h bar iq e puissance iq de RI. Et je vois apparaître tout de suite que le pi carré commutateur avec e puissance iq de RI, c'est h bar q scalaire pi e puissance iq de RI plus e puissance iq de RI pi. Qui est en fait la transformée Fourier du vecteur courant. Et si je continue maintenant, j'ai calculé le commutateur de H0 avec ρ, puis il faut maintenant que je calcule de ρ Q croix avec H, donc il y a un moins ici, et à ce moment-là, vous vérifiez aisément qu'on voit apparaître, il ne restait qu'un P à côté. Hein. Quand j'ai calculé le commutateur de PI avec E puissance iq de RI, il y avait deux termes qui ne dépendaient que d'un PI. Et quand je prends maintenant le commutateur de puissance moins iq de RI avec le PI, il ne me reste plus de PI à la fin, et je retrouve h bar q scalaire h bar q plus h bar q, 2h bar 2 q 2. J'en déduis donc que le commutateur de ρ q croix avec h0 ρ q, c'est-à-dire cette quantité-là, c'est n h bar 2 q 2 sur 2n, et j'obtiens une relation extrêmement simple, que n1 de q c'est n fois h bar q2 sur 2n. Ça, c'est remarquablement simple, et ça rappelle quelque chose qui est bien connu des physiciens atomistes, puisque le carré d'un élément de matrice qui relie un état à un autre, que multiplie la fréquence de bord correspondante, avec coefficient m h bar près, c'est ce qu'on appelle la force d'oscillateur d'une transition en physique atomique. Et la somme des forces d'oscillateur partant d'un niveau vers tous les autres niveaux est donnée par ce qu'on appelle la règle de Thomas Kuhn-Reich, c'est-à-dire c'est un nombre de fois h bar, le nombre d'électrons du système qui multiplie h bar. Donc, on a pour un condensat l'équivalent de la règle de somme de Thomas Kuhn-Reich, et qui est la règle de somme M1, qui est M1 de Q égale N h bar Q2 sur 2M. Alors, vous voyez que les trois relations que j'ai écrites au tableau sont extrêmement importantes. C'est des relations exactes. Je n'ai fait aucune approximation, à part bien sûr l'approximation de Born. Hein. Donc, c'est des relations exactes. Elles sont indépendantes du modèle qu'on va prendre. Et donc, quand on prend un modèle, comme la théorie de Bogodubov ou un autre modèle d'approximation pour décrire le condensat, il faut vérifier la règle de somme. Si on les vérifie et qu'elle marche, ça donne une bonne indication qu'on n'a pas fait un modèle trop délirant. D'autre part, ça permet de calculer des ordres de grandeur sur la fréquence moyenne du spectre, sur sa largeur. On peut également, c'est un peu fastidieux, je ne l'ai pas fait, mais dans la littérature, des gens ont calculé aussi explicitement M2 et M3 et ont relié M2 et M3 à des grandeurs physiques comme la fonction de corrélation à deux corps et des choses comme ça. Alors, pour résumer, comme je l'ai dit, donc ce sont des règles exactes, des relations exactes, indépendantes de la connaissance des états propres de H0. On n'a pas besoin de connaître les états propres pour les... Si on peut calculer donc qui, on trouve M-1, et on les utilise aussi, deuxième intérêt, elles permettent de calculer M1 sur M0. On voit tout de suite que M1 sur M0, c'est N H bar Q2 sur 2N divisé par H de Q. Ceci me donnera la fréquence moyenne du spectre, le barycentre du spectre, quel que soit c'est une relation exacte. Donc voilà une relation exacte. On peut aussi calculer donc delta oméga carré, c'est la valeur moyenne du carré de l'écart entre oméga et sa valeur moyenne. C'est donc oméga 2 moyen moins oméga moyen au carré, c'est M2 sur M0 moins M1 sur M0 au carré. Et nous verrons dans les cours qui suivent, pour le condensat homogène et pour le condensat inhomogène, de nombreuses applications de ces expressions. Voilà, donc je m'arrête aujourd'hui. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire hier, mais je finis un petit peu à l'avance, je suis à votre disposition pour répondre à toutes questions que vous voulez poser à la fin du cours. S'il y a soit en privé, soit comme ça, si vous avez une question à poser, vous la posez maintenant. Je peux essayer de répondre. Oui, Chris. Oui.
En appliquant la règle de Rayleigh thermique.
Oui.
Est-ce que c'est vraiment raisonnable dans le cas de la division de Bragg Donc, le cas final est bien défini. Je pense que quand on diffusion de base, j'attends que ce cercle qui va démarrer quadratiquement, et après, il y aura des oscillations.
Oui, mais là, tu as raison. En toute rigueur, si tu veux, j'ai introduit ici une fréquence de Rabi effective. Donc j'ai une perturbation cohérente qui va me coupler un état initial à un état final. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart, les spectres en énergie oméga sont des spectres continus. Donc je vais avoir le couplage, un couplage cohérent entre un état initial, tel qu'on voit ça, et un état dans le continuum d'état excité. Et à ce moment-là, tu sais très bien que quand on a une perturbation cohérente suffisamment faible, couplée à un continuum de largeur suffisamment grande, plus exactement si la largeur du continuum est grande devant oméga rabi, à ce moment-là, je peux définir une probabilité de transition par unité de temps. Tu as raison, si j'avais un véritable état discret à la fin, j'aurais une précession de rabi, et qui partirait en T2.
Donc, pour des temps...
Ah, pour des temps extrêmement courts, tu as raison, je partirais en T2. Mais si j'ai un état final qui fait partie d'un continuum, mais c'est toujours le cas.
Oui, mais attends, dans la théorie de la diffusion de Braque actuellement, tu as le fameux thème de Ozone, c'est-à-dire que l'onde qui a été diffusée va elle-même pouvoir subir une deuxième diffraction de Braque et revenir vers la première. Donc,
oui.
En général, on traite ce problème justement en faisant une approximation à deux niveaux et on a une oscillation.
Oui, et c'est ce qui se passe en particulier si la fréquence de Rabi est suffisamment importante.
C'est justifié de se réduire à un niveau discret dans l'état final s'il y a une deuxième diffusion de Braque qui te ramène.
Bien sûr.
L'état final,
oui, mais, l'état oui, mais ça on va y arriver. On va arriver au problème, si tu veux. C'est ce que je vais faire dans les trois ou quatre derniers cours du cours de cette année. C'est quand. La force de la transition est suffisamment grande pour qu'on observe une transition de Rabi.
Oui.
Et ça a été observé expérimentalement. Dans le groupe de Ketterle, ils ont vu des oscillations de Rabi, mais il faut une fréquence de Rabi suffisamment forte. Ici, je fais un calcul à la limite oméga Rabi tendant vers zéro. Je fais un calcul perturbatif. Je suppose que les couplages entre l'état initial et l'état final est petit devant la largeur de l'état final. Si on augmente le couplage, et ça c'est facile avec un laser, on peut augmenter le laser, à ce moment-là, on tombe dans un autre régime. On a la transition progressive entre l'exponentielle de Weisskopf Wigner et la précession de Rabi.
Comment tu le détermines, cette largeur dans l'état
final? Il faudrait prendre la... Ça, c'est un problème typique de mécanique quantique. Il faudrait prendre l'élément de matrice de recul avec les états finales, multiplié par la densité d'état final, et on obtient ici une fonction de l'énergie d'état final qui a une certaine forme, qui a un certain spectre. Dans le bouquin qu'on a fait avec Dupont et Gambert, on a un complément où on a justement le couplage d'un état discret à un continuum qui est décrit par un spectre quelconque, et qu'on augmente le couplage, on passe continuellement de la fréquence de... Alors si tu veux, je te remercie de poser cette question, mais là ce que j'étudie, c'est le régime que j'appelais linéaire. C'est un régime où les perturbations sont suffisamment faibles, infiniment faibles, pour négliger ce retour.
Donc il faut imaginer des atomes qui sont en train de diffuser sur ce potentiel, mais dans un spectre de différents...
Et ils n'ont pas le temps de revenir en arrière de...
Okay.
Alors évidemment, si tu augmentes l'intensité laser, tu arrives à faire. Les gens font des impulsions pi sur 2, des impulsions pi. Mais là, je regarde le régime... Je trouve que c'est pas... Effectivement, c'est pas une bonne terminologie, mais elle est... Ici, à Paris, on les appelle résonance induite par le recul. Je crois que c'est peut-être un peu mieux. C'est une transition rarement simulée entre deux états finaux de même nombre quantique interne, mais d'impulsions différentes.